Alors, c'est toujours dans notre thème, les caractères de la vraie foi. Et je voudrais seulement souligner au début de ce dernier moment de la journée, ça sous-entend donc qu'il y a une fausse foi, hein, puisqu'on a dit de la vraie foi. Et il y en a peut-être qui sont un peu troublés, parce qu'ils disent, est-ce que vraiment il nous enseigne la vérité? La foi, c'est la foi. Mais justement, demain, avec Jacques, on verra qu'il met en doute la foi de certaines personnes. Et puis, et sans aller chez Jacques, on ira chez le Seigneur. Quand il était à Jérusalem, j'ai parlé de son fameux fouet qu'il a fait pour chasser les vendeurs du temple. Vous avez déjà lu à la fin du chapitre 2 de l'évangile de Jean, ce que Jésus dit. Il est dit au verset 23 du chapitre 2 de Jean. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, donc dans ce moment où il a chassé les vendeurs du temple, il est dit « plusieurs crurent en son nom ». Qu'ils étaient sauvés? On vous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Hein. Il suffit de croire au nom de Jésus. Plusieurs crurent en son nom. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cru en son nom? En voyant les miracles qu'il faisait. Hein, ils ont été impressionnés. Ils ont dit, ça c'est vraiment l'envoyé de Dieu. Et ils ont cru en son nom. Mais qu'est-ce qu'il est dit au verset 24? C'est pas moi qui vous le dis. Et Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et pourtant, ils avaient prétendu croire en son nom. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Ah oui, vous aimez mieux être debout, ça va bien. On est libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est bien, les témoins sont debout. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est ce que nous allons voir demain. Dieu sait si la foi est réelle dans l'homme. Lui, il n'a pas besoin de nos œuvres pour savoir ça. Lui, il sait si la foi est en nous, parce que c'est lui qui a une connaissance parfaite de tout. Mais il est dit que tous ces gens qui avaient cru à Jésus, en son nom, Jésus ne se fiait pas à eux. Alors faites bien attention. Quand on vous dit, mais il suffit de croire au nom de Jésus, que voilà, on est sauvé, attention, on dit qu'on croit au Seigneur Jésus. Mais est-ce que le Seigneur peut se fier à nous? Jésus ne se fiait pas à eux. Moi, je peux me fier au Seigneur, mais est-ce que lui? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que j'ai vraiment la foi? C'est pas pour vous mettre des doutes dans le cœur. Mais attention, parce qu'il y aura des surprises. Il y a un autre verset dans Matthieu 7, dans le sermon sur la montagne, où Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On veut toujours faire des choses pour le Seigneur. Et on veut faire de grandes choses pour le Seigneur. Alors que la Bible dit, quand on connaît la Bible, elle dit, tu voudrais faire de grandes choses? Ne les recherche pas. Ce que le Seigneur nous demande d'abord, c'est d'être fidèles dans les petites choses. Et quand nous serons fidèles dans les petites choses, il nous en confiera lui-même des plus grandes. Mais nous, on veut d'abord faire de grandes choses. On nous parle d'une vision mondiale qu'on n'est pas même capable de témoigner dans sa propre famille. C'est beaucoup plus facile, hein, de faire un grand voyage. Soyons fidèles, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et cette volonté, elle est quotidienne. Être fidèle dans ce qu'il nous demande là, sur place. Puis il dit qu'un jour, on frappera à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Puis Jésus leur dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'as-tu pas enseigné dans nos rues? On est venu t'écouter. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas même chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Verset 22. Alors Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Eux prétendaient le connaître. Oh, nous connaissons Jésus. Puis il leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que c'est des gens qui ont perdu leur salut? C'est des gens qui étaient sauvés et qui ont perdu leur salut? Ils ne l'ont jamais eu, parce que qu'est-ce qu'il dit de ses brebis? C'est là qu'il faut connaître l'unité de la Bible. Chapitre 10 de Jean, mes brebis, je les connais, et elles me suivent. Et nul ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Celui qui m'a donné ses brebis, c'est mon Père. C'est ça qui est tellement merveilleux. Vous avez été donné à Jésus par qui? Par le Père. C'est le Père qui vous a donné à son Fils. Est-ce que vous croyez que le Fils va vous abandonner? Prenez conscience dans la foi que c'est vrai cette parole. C'est le Père de Jésus-Christ qui vous a donné à son Fils. Pour que son Fils vous sauve. Est-ce qu'il vous a sauvé? Pour qui est-il mort? Il est mort pour vous. Et ça, c'est une œuvre qui a été voulue par le Père, qui a été accomplie par le Fils et qui se réalise en vous par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. La Trinité tout entière est engagée dans votre salut. Mais alors, nous devons accepter dans nos vies la Seigneurie de Christ. Alors, il y a un tas de gens qui disent « Oui, Jésus est notre sauveur, Jésus est mon sauveur, etc. » et qui chantent même des cantiques. Et puis, la vie ne correspond pas à l'enseignement du Seigneur. Eh bien, laissons le Seigneur nous sonder. Et dit « Examinez vous-même si vous êtes dans la foi. » C'est pas de dire bon, « Moi, je me souviens... Je me suis converti, je suis un sauvé depuis X années, mais est-ce que tu es un sauvé aujourd'hui? Et il y a un moment où on a pris une décision, mais il faut le renouvellement constant. C'est ça la vie. Et encore une fois, si vous avez bien saisi que le salut, c'est pas quelque chose, que c'est quelqu'un, ça change toute votre conception, vous n'appartenez plus à vous-même. Et c'est un verset qui est capital, hein. Le Seigneur ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun d'eux car il savait ce qui était dans l'homme. Et l'apôtre Paul a très bien compris cela. Et ces gens, ils avaient cru pour quelle raison? Parce qu'ils avaient vu le Seigneur faire des miracles. Et Jésus n'aime pas notre foi repose sur des miracles. Or, j'ai lu une thèse de théologie en France, qui avait été écrite par une personne que j'aimais bien, mais enfin qui croyait ça comme ça. La guérison divine, moyen d'évangélisation. Alors, on voulait faire toute une propagande, faisons des grandes missions de guérison divine, invitons tout le monde est malade, tout le monde a son cancer. Alors, c'est un grand moyen d'évangélisation. On vous dit, ben voilà, on a un prédicateur qui va vous imposer les mains, on va faire des miracles, vous verrez des miracles. Le Seigneur a porté non seulement nos péchés sur la croix, il a porté nos maladies. Nous allons évoquer le nom du Seigneur sur vous. Et si vous êtes vraiment sauvés, bien vous aurez aussi la guérison. Moi, j'y crois, la guérison divine. Je crois que Dieu peut guérir et qu'il n'a pas besoin des médecins. Mais il se sert aussi des médecins. Mais je crois que Dieu peut guérir, mais il nous faut être sages et demander d'abord la volonté du Seigneur. Il y a une prière de la foi pour guérir les malades. La prière de la foi sauvera le malade. Voilà encore le mot foi qui est là en évidence, la prière de la foi. Mais il y a des conditions à réaliser pour cela. Mais dire, voilà, on va employer la guérison comme moyen d'évangélisation. Alors, on fait un grand tapage, une grande propagande, la salle se remplit. Puis on annonce l'évangile, hein. Oui, on fait des numéros spéciaux, tout ce que vous voulez. Et puis après, on annonce l'évangile, on annonce peut-être les lois spirituelles. On ne peut pas dire que c'est faux. Le message, c'est le message du salut, du croix au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, bien sûr, c'est ça. Et puis après, eh bien, voilà, on dit bien que ceux qui sont malades s'avancent et puis on va leur imposer les mains. Et comme ça, on aura beaucoup de monde. Et puis, forcément, ceux qui disent être guéris, eh bien, on les considère aussi comme sauvés. Et puis on voudrait tout de suite les lancer dans le témoignage. Puis au bout de peu de temps, ça ne va plus. Ça ne va plus. Puis ces gens qu'on a entendus rendent témoignage qu'ils étaient sauvés, puis qu'ils nous disent qu'ils ont été délivrés. Ils nous brossent un tableau tout noir de ce qu'ils étaient, et souvent on noircit encore davantage. Hein. Que ce qu'on a été, on raconte toute sa vie passée, puis après voilà, maintenant je suis sauvé. Puis on est tout blanc. Blanc, plus blanc que neige. Mais on chante dans le cantique, c'est vrai aussi. Et le sang de Christ nous lave. Mais voilà, c'est de l'exaltation, c'est de l'émotion. Maintenant, j'ai été délivré. Avant, je fumais tant par jour de cigarettes. Maintenant que je suis converti, c'est fini. Puis 15 jours après, ils changent de trottoir pour pas nous saluer. Pourquoi? Parce qu'il a l'abomination entre ses dents. C'est un verset biblique, ça. Ils mettent leur abomination entre leurs dents. C'est toujours, vous savez, le salut, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on aurait arrêté de fumer qu'on est sauvé. La délivrance, c'est une délivrance bien intérieure. Puis après, tout ça peut tomber. Le Seigneur peut nous libérer de tout cela, de tous ces esclavages. Mais ayons affaire avec le Seigneur, mes amis. Ayez affaire avec le Seigneur. Son joug est doux, son fardeau est léger. Croyez-le. Puis il vous dit d'avant, tu veux me suivre, tu sais, il y aura des difficultés, mais je serai ta force, je t'aiderai. Et alors je vous disais que l'apôtre Paul avait bien compris cela, parce qu'il dit que, pourtant lui, il avait le don de faire des miracles. Et quand il est allé à Corinthe, cette ville dont je vous parlais tout à l'heure, et qui était vraiment une ville dissolue, corrompue, il y avait des Juifs, puis il y avait des Grecs dans son auditoire. Puis il savait que les Grecs, eux, ils auraient voulu le voir parler avec beaucoup d'éloquence et beaucoup d'instruction, beaucoup de raisonnement, de sagesse humaine. Puis il dit, non, je ne vais pas répondre à leur attente. Ils veulent un discours de sagesse, mais je ne leur ferai pas un discours de sagesse. Puis il dit, les Juifs, eux, pour qu'ils croient, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'ils attendaient, les Juifs, de Paul? Des miracles. On savait qu'ils faisaient des miracles. Eh bien, il dit, à Corinthe, moi, je ne ferai pas de miracles. Et vous voyez, je dis simplement dans le chapitre 2 de la première aux Corinthiens, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Vous voyez que la foi, c'est croire au témoignage de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait leur annoncer? Le témoignage de Dieu, c'est donc l'Écriture. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est beau ça. Parce que quand la foi est fondée sur la sagesse des hommes, on a entendu un type, mais c'était formidable ce qu'il a dit. Il a exposé une doctrine, hein, moi j'adhère complètement à cela. Hein. Puis ça tient combien de temps? Jusqu'à ce qu'il y ait un autre qui vienne et qui soit peut-être encore plus brillant, puis qui vous expose une doctrine un peu différente. Et puis on est d'accord avec le dernier qui a parlé, qui nous a le plus impressionné. Alors une fois on a cette foi-là, une fois on a une autre foi, et puis on est toujours ballotté, ça et là, partout dans la doctrine. Il ne faut pas que notre foi repose sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu et sur le seul fondement, Jésus-Christ. Puis il ne faut pas non plus que notre foi soit basée parce qu'il est sur un miracle. On a vu faire un miracle, eh bien, je crois parce que j'ai vu des miracles. Bien, regardez ce que l'évangile de Jean nous dit encore au chapitre 12 de Jean. Verset 37. On va tirer depuis verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Pourtant, au début, ils avaient cru à cause des miracles, mais on s'habitue. Et puis pour finir, on n'y croit plus. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé, c'est le même verset que dans Romains chapitre 10. Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse, parce que leur cœur n'était pas droit, alors c'est un jugement de Dieu sur eux. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, la gloire de qui ? De Jésus, hein, oui, et qu'il parla de lui. Donc, quand vous lisez le prophète Ésaïe, vous savez que Ésaïe a parlé du Seigneur. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas confessé le Seigneur ouvertement? Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, et c'est le cas de beaucoup, hein, et ne les garde point, qu'est-ce qu'on n'a pas gardé? C'est la parole. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a dit. Eh bien, méditez sur ces paroles et puis demandez au Seigneur que votre foi vraiment soit la vraie foi. Le Saint-Esprit rendra témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Alors, simplement quelques mots sur ces expressions que vous trouvez dans l'Épître à Timothée. J'ai dit cet après-midi que le mot « foi » peut désigner l'ensemble des vérités révélées par Dieu, ou la doctrine chrétienne en général. Alors, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les textes suivants. Par exemple, Jean 20, versets 30 à 31, il est dit que tout cet évangile de Jean, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ces choses ont été écrites. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Tout ce que vous avez dans l'évangile de Jean a été écrit pour vous amener à quoi ? À la foi. La foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Verset 30 du chapitre 20 de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses que vous avez dans l'évangile de Jean ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ça, c'est la doctrine chrétienne. Ces choses ont été écrites. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Quand on croit ces choses, eh bien, c'est ça la vraie foi. La foi en la vérité. Prenez encore 2 Thessaloniciens. On se rapproche de Timothée, puisque c'est là qu'on va finir. 2 Thessaloniciens, il y a 2 épîtres aux Thessaloniciens. Vous avez de la peine à trouver ces livres ou bien c'est facile pour vous? Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est les évangiles, hein, ça va vite. Actes des apôtres, et puis après, Rococo, Galéfico, Tétété, Tititifi. Hein, voilà, toutes les épîtres. Hein, c'est les 14 épîtres de Paul. Romain, Coco, Corinthien, il y en a 2, Coco. Galate, Éphésien, Philippien, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Rococo Galéfico, TTT, TT, il y a deux Thessaloniciens, hein? Titi, deux Timothée et Tite, Pifi, Philémon, Rococo Galéfico, TTT, Titi, Fifi. Alors, ça vous aide, hein? On ne prend ça pas encore fait. C'est des petits trucs. Puis après, Philémon, ben vous avez les Hébreux. Et puis après, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Apocalypse, voilà les 27. Alors, ça vous aide à vous y retrouver. Pour le Nouveau Testament. Si vous en entendez les yeux, je dirai une autre fois. Hein. Alors, on est dans le deuxième TT. Alors, Thessaloniciens, c'est avant Tititi. On a dit, chapitre 2, verset 13, c'est un beau verset. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. » C'est beau, hein, comme il vous appelle. Prenez-le pour vous ce soir. Je n'ai pas voulu vous faire douter de votre foi, mais c'est simplement pour vous montrer combien on doit être sérieux. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet et rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi ? Pour le salut. Qui est-ce qui a choisi le salut ? Pour vous. C'est Dieu. Dieu vous a choisi pour le salut, n'est-ce pas merveilleux ? Par la sanctification de l'esprit, par la mise à part de l'esprit, et la foi, et par la foi en la vérité. La foi en la vérité, c'est les doctrines du christianisme, de nouveau. Hein. C'est là, c'est quand il a dit, et par la foi en la vérité, le mot foi, ici, c'est l'ensemble de la doctrine chrétienne. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez, quoi ? La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la grâce, vous aurez la gloire. C'est beau. La grâce d'abord, puis le salut nous apportera la gloire. Alors, dans les épîtres à Timothée, vous trouverez très souvent le mot foi. Et là aussi, pour que vous puissiez bien saisir, je vous dis juste les citations. 1 Timothée 1, verset 19. Dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul parle à son enfant dans la foi Timothée. Au verset 18, il lui dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi. » Qu'est-ce que c'est garder la foi ? C'est pas perdre la foi qui sauve, c'est garder l'enseignement chrétien. Ça, la foi, c'est les doctrines chrétiennes. Que tu combattes le bon combat en gardant la foi, l'enseignement des vérités chrétiennes. Et une bonne conscience. Parce que si je prêche seulement les vérités chrétiennes, pour que ma conscience soit bonne, il faut que je les vive. Sans ça, j'ai une mauvaise conscience. Et quand je commence à m'écarter de l'enseignement de l'Écriture, eh bien, je sais que j'ai une mauvaise conscience. Et quand on s'écarte de l'Écriture, eh bien, notre conscience, notre bonne conscience, on la perd. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Qu'est-ce qu'on peut perdre ? C'est une bonne conscience. Quand je n'obéis plus vraiment à la parole de Dieu, je perds ma bonne conscience. Et c'est comme ça que ça commence, hein, le déraillement. On perd la bonne conscience. Et qu'est-ce qui arrive ? Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On ne sait plus où on est. On fait naufrage. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, fait qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Est-ce que c'est la perdition, ça ? Non, pas encore. Hein. Il y a encore une possibilité d'être sauvé. Mais ce n'est pas nécessaire de faire naufrage. Hein. Mais on peut faire naufrage et être sauvé. Mais vous comprenez, là, faire naufrage quant à la foi, c'est ne plus savoir vraiment à quoi s'en tenir au sujet de la parole. On doute de cette parole, on doute de l'autre. On garde la foi. La foi est bien de ce qu'on entend par là. Parole de Dieu. Et tant que vous gardez la parole, tant que vous la mettez en pratique, vous avez une bonne conscience. Mais dès que vous perdez la bonne conscience, bien, voilà, on ne sait plus où on est. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut prendre encore cette parole à la lettre ? Et on ne sait plus. Et c'est le naufrage. Alors que Dieu vous délivre de naufrage. Jonas a été sauvé du naufrage. Donc on peut faire naufrage et être sauvé quand même. On peut faire naufrage comme Paul et être sauvé. Paul a fait naufrage dans la Méditerranée. Alors voilà, le naufrage quant à la foi, c'est pas encore la perdition. Mais la foi, c'est le gouvernail du vaisseau, puis la bonne conscience, on peut dire que c'est l'ancre. Il faut garder une bonne conscience, alors. Quand il y a des tempêtes, l'ancre est là, c'est une bonne conscience, et puis le gouvernail, on le garde. Mais
il nous faut veiller. Alors, maintenant, on passe à 1 Timothée 4, verset 1. C'est là que je mets en application un peu l'enseignement que j'ai essayé de vous donner cet après-midi au sujet des différentes acceptions de la foi. 1 Timothée 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » C'est de nouveau là l'ensemble des vérités du christianisme. « Pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. » Nous avons dit que la vraie foi, c'est une doctrine qui est inspirée de Dieu. Hein. Et puis voilà, on s'attache à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ils ont déjà une mauvaise conscience. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prescrivent de ne pas se marier. Ça, c'est une doctrine de démons. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Abandonner la foi, c'est rejeter le simple enseignement de l'Écriture et c'est ajouter toute espèce de théorie et c'est donc rejeter la vérité chrétienne, et quand on la rejette, on abandonne ces vérités, on s'en détourne pour prêcher ouvertement l'erreur. Alors, ces hommes portent dans leur conscience le sceau indubitable des mensonges et de la condamnation. Là, le Seigneur peut encore les toucher en grâce, parce que il peut les faire revenir. Maintenant, mais c'est toujours la foi comme ensemble des vérités du christianisme. 1 Timothée 5, verset 8. Là, il est parlé des veuves. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est un type qui fait profession christianisme, hein, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Renier la foi. Qu'est-ce que c'est renier la foi? C'est ne plus mettre en pratique ce que l'Écriture nous dit. Et quel est un des premiers commandements dans toute la Bible? Des enfants vis-à-vis des parents, honore ton père et ta mère. Et si on oublie ce commandement, on est déjà pire qu'un incrédule. Vous comprenez? C'est ça, renier la foi. Alors, renier la foi, c'est ne pas mettre en pratique. Pierre a renié ce qu'il croyait, il a renié le Sauveur. Hein. Mais il a été sauvé quand même parce qu'il s'est repenti. Donc là, il y a encore possibilité de revenir. Mais c'est l'insoumission et la désobéissance à la parole de Dieu dans notre vie pratique. Et celui qui tombe dans cet état, il est pire qu'un incrédule. Donc pendant qu'il est dans cet état, est-ce qu'il peut plaire à Dieu? Non. Il ne peut pas plaire à Dieu et il ne vit pas la vie de foi. Prenez maintenant 1 Timothée 5, versets 12 à 13, toujours. Refuse les veuves, car lorsque, j'ai parlé des jeunes veuves, hein, refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, elles se rendent coupables en ce qu'elles voient leur premier, en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais elles sont causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Mais où est-ce qu'il est dit qu'elles ont rejeté leur première foi? Là, au verset 8, c'est renier la foi. Hein? Ah oui, c'est ça, moi j'ai une autre version. Hein. C'est le verset 12. Hein. elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Mais vous avez un petit S là, hein, dans certaines. C'est leur première foi.
C'est pas simplement leur premier engagement, parce qu'on peut avoir été marié, on peut s'être engagé devant le Seigneur, mais la mort coupe le lien, de sorte que ce n'est pas un péché que de se remarier, c'est pas cela. Mais quand elles s'abandonnent comme ça à la volupté, elles ont rejeté leur première foi. Elles ne vivent plus de cette foi authentique. Là encore, c'est pas la perte du salut, mais c'est la perte du témoignage. C'est ne plus avoir le même attachement à la parole de Christ. On peut dire que c'est l'abandon du premier amour. C'est une illustration de l'abandon du premier amour. Maintenant, 1 Timothée 6, versets 9 à 10. On a bientôt fini. C'est au sujet de l'argent. C'est en effet une grande source de gain que la piété. La piété, c'est ce qui concerne nos relations avec Dieu, nos rapports avec Dieu, avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, alors, est-ce qu'on va être possédé par le Seigneur ou par l'amour de l'argent? Qu'est-ce qu'il arrive quand on est possédé par l'amour de l'argent? Ils se sont égarés loin de la foi. Vous voyez les dangers qu'on peut avoir. Se sont égarés loin de la foi. La foi, ici, c'est de nouveau l'ensemble des vérités chrétiennes. Parce que quand on a de quoi se nourrir, être vêtu et le nécessaire, eh bien, nous rendons grâce à Dieu. Mais nous ne voulons pas tomber dans ce piège de vouloir nous enrichir le plus possible. De toute façon, on n'emportera rien. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. C'est toujours de la même foi qu'il s'agit. Et là, nous voyons que les soucis, la tromperie des richesses, les voluptés de la vie sont vraiment des épines, comme le dit Jésus, qui étouffent la bonne semence, elle empêche de porter du fruit à maturité. Et alors on perd les vraies bénédictions. Maintenant, 1 Timothée 6, versets 20 à 21. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détourné de la foi. Là, vous avez les dangers, n'est-ce pas, qui nous menacent. Alors, on est mis en face de ces dangers, que le Seigneur nous garde de nous écarter, de nous détourner de la foi. On a le même texte dans 2 Timothée 2,18. Sous l'influence de l'erreur reçue, et par les objections d'une science, cette science, comme il est dit, faussement ainsi nommée, la foi est renversée, elle en est à côté de la vérité vers laquelle on tendait. Quelquefois, quand on fait des études, on passe par là. Et on est à côté de la foi, par tout ce qu'on entend. Et enfin, un dernier passage, dans 2 Timothée 3, versets 8 à 9, 2 Timothée 3, versets 8 à 9. L'apôtre nous parle des derniers temps, ce que seront les derniers jours, où on aura la forme de la piété, mais on en aura renié ce qui en fait la force. Puis il cite au verset 8 deux hommes, déjà dans l'Ancien Testament, qui vivaient du temps de Moïse et qui étaient des magiciens du Pharaon,
dont on a les noms. De même, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent, donc à la fin des temps, à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus, ils ne feront pas plus de progrès, car leur folie se manifestera pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, être réprouvés quant à la foi. C'est l'état de ceux qui, ayant résisté à la vérité, comme les magiciens, ils ont vu les miracles de Moïse et d'Aaron, ils ont résisté à la vérité, leur entendement s'est corrompu, et c'est la foi elle-même qui démontre leur état de perdition. Là, c'est la perdition. Cependant, ils n'iront pas plus en avant, ils ne réussiront pas dans leur dessein, car leur folie sera manifeste à tous. Ça, c'est l'état de perdition que nous avons là. Ils sont réprouvés quant à la foi. C'est la foi elle-même, c'est-à-dire les vérités du christianisme, les condamnent. Et je vous ai lu dans Jude que Jude dit qu'il s'est senti poussé à leur écrire au sujet de la foi qui a été enseignée aux saints une fois pour toutes. Tout ce qu'on doit savoir pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec Dieu, pour vivre une vie de foi, nous connaissons dans l'Écriture. Il n'y a pas de nouveau dogme à ajouter. Et dans 1 Pierre 1, verset 5, il est dit que c'est la foi qui nous garde. On est gardé par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps. Est-ce qu'il y a des questions? Mais est-ce que vous trouvez que c'était inutile de vous dire encore ces choses sur... Il ne faut pas avoir peur de me faire de la peine. Hein? Oui.
C'est là quand vous parliez d'un Timothée 6, 21, vous vous rendez compte de la foi. Pourquoi c'est ce que vous avez dit à ce propos de. Je pense à l'école. C'était le même aussi comme les autres, qui étaient éloignés, qui pouvaient avoir fait une charge de revenir.
1 Timothée 6, versets 9 à 10. Ils se sont écartés de la foi. Ah, c'est sur ces objections de la science. Non, mais ça, c'est une crise que nous pouvons connaître, hein, quand on est peut-être aux études, qu'on entend toutes sortes de théories. J'ai vu mon propre fils, oui, qui est à Lausanne, maintenant, il est doyen de la faculté des lettres, mais il m'a dit une fois, quand il était, au plus tard, après sa crise, mais quand il était aux études, surtout en philosophie, on leur dit tellement de choses, et il a dit, et il y a un moment, je lisais plus la Bible, puis je pouvais plus croire, parce qu'on nous disait tellement de choses qui étaient contraires à tout ce que la Bible enseigne, mais ce qui m'a gardé, eh bien, il y avait une chose que je ne pouvais pas renier, c'était la foi de papa et de maman. Je ne dis pas ça pour nous mettre en avant, mais il y a une chose qu'il avait vue et qu'il ne pouvait pas renier parce que on l'avait fait participer à nos exercices de foi et il avait vu les exaucements. Et ça, il ne pouvait pas le nier. C'était quelque chose d'une expérience. Alors, il a dit, ce qui m'a gardé, ce qui m'a fait revenir à la Bible, c'est qu'il y avait en tout cas une chose que je ne pouvais pas renier, c'était la foi de mes parents. Alors, c'est pourquoi c'est très important pour nous, enfants, que nous restions, nous, fidèles dans la foi. Parce qu'il y a un moment où, forcément, on met nos enfants aux études. Mais c'est dangereux. C'est quand même dangereux quand on entend ce qu'on essaye de leur inoculer, de mettre dans leur cœur. Ça les ébranle. Puis c'est pas facile. Il y a longtemps de cela. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question? Bien, on peut terminer.
Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce de nous avoir donné cette journée où nous nous sommes imprégnés de ta parole. Nous voulons te faire confiance et te demander que tu nous rappelles toutes ces choses dans l'éveil aussi de cette nuit, même dans notre sommeil, tu peux nous parler.